Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, place au débat des grandes voix du jeudi, avec ce soir à mes côtés Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Bonsoir.
Bonsoir
Bruno.
Julien.
Le politologue Jean Garrigue, l'historien Jean Garrigue, que dis-je. Bonsoir Jean.
Bonsoir Julien.
Et puis le rédacteur en chef adjoint du Parisien, Henri Vernet. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Alors on commence évidemment par le débrief de la conférence de presse de Jean Castex, qui se poursuit d'ailleurs avec les questions des journalistes. Jean Castex qui a donc précisé des éléments du calendrier de déconfinement, c'est ça. Première conférence de presse depuis un mois, tout de même, avec à ses côtés Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer pour l'éducation nationale. Quelques annonces et notamment la confirmation de la fin des restrictions de circulation.
À partir du 3 mai, nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. Cette liste n'est pas définitivement fixée. Elle sera assortie de conditions particulières, le cas échéant, je le disais, territorialisées, qui évolueront au fil des étapes.
Bien, il y a quelques annonces également qui étaient très attendues sur les écoles, notamment le protocole pour la rentrée des classes qui sera donc lundi a été ajusté, a été confirmé, puisque les annonces avaient plus ou moins filtré, mais c'est à peu près tout, Bruno Jeudy. Pas d'annonce concernant la réouverture des commerces, pas d'annonce concernant la réouverture des restaurants. On sait que c'est autour de la mi-mai, on le savait déjà. C'est le président de la République qui, vraisemblablement, devrait préciser les choses. On parle d'une allocution dans les prochains jours ou les prochaines semaines. C'est le bon timing pour déconfiner ?
Vous en savez des choses, Julien. On espère que c'est la mi-mai. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation. On est dans le flou, on reste dans le flou parce que, au fond, c'est un déconfinement qui s'organise pour des raisons plus politiques que sanitaires. Oui. Ça ne s'appuie pas sur des seuils, comme ça avait pu être le cas lors du déconfinement précédent. Et donc, c'est l'exécutif qui décide, eh ben là, on va faire les écoles. Il n'y a pas de raison de faire les écoles lundi. Oui. Ça reste très élevé. On va faire les terrasses peut-être entre le 13 et le 17 mai.
Une promesse qui avait été faite par le président lorsqu'il avait annoncé.
C'est une promesse.
Et c'est la fin des vacances, on peut dire
c'est
ça.
C'est une promesse. C'est l'idée que ça devait être un confinement court,
oui,
et qu'on déconfinerait ensuite forcément derrière, oui, lentement, à petits pas.
Donc c'est un déconfinement politique.
C'est un déconfinement politique parce que nous sommes à un an de la présidentielle, qu'on ne va pas continuer à laisser les gens enfermés. Ce confinement n'a eu lieu que parce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement. Et donc nous allons en sortir parce que la promesse est faite qu'on en sortirait.
Donc quand le président de la République et le Premier ministre, là ce soir, Henri Vernet, dit en substance, ça va mieux, le pic de la vague est sans doute derrière nous, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, il l'a dit comme ça, le pic de la troisième vague est sans doute derrière nous, on voit que ça décroît et on est sans doute au sommet des hospitalisations et des réanimations. Là aussi c'est de la méthode Coué ?
Oui, parce que là il spécule un peu, en réalité les chiffres que donnent, ou en tout cas les projections que donnent les épidémiologistes, les infectiologues, c'est plus réservé. Ils disent que le pic, il est peut-être encore devant. On est proche, sans doute, mais est-ce qu'il est juste derrière,
c'est un
juste
sacré
devant
pari,
alors. Juste derrière. C'est, oui, ça. Mais depuis le début, il y a une espèce de pari politique autour de ce confinement, ce déconfinement.
Pardonnez-moi, alors, on n'a jamais engagé un déconfinement. Il y en a eu trois. On n'a jamais engagé un déconfinement avec des seuils de contamination et d'hospitalisation si hauts.
Alors, ben justement, c'est là que ça interroge. Après, là où le pari reste un petit peu limité malgré tout, c'est que, encore une fois, quand ces scientifiques parlent de ça, on voit bien que c'est soit juste derrière nous, ce fameux pic, soit juste devant. Simplement, on ne sait pas exactement où on est, puisque par définition, le maître des horloges, le maître du temps, comme l'a dit le président lui-même naguère, c'est le virus, c'est pas lui, c'est pas les politiques. Alors, juste une petite nuance, il faut quand même remarquer que Castex, après tout, il est un tout petit peu, il est un poil plus prudent que, par exemple, Gabriel Attal, le porte-parole hier, oui, qui était beaucoup plus allant, beaucoup plus affirmatif sur une réouverture assez prochaine des commerces. Donc on sent quand même qu'il y a, non pas deux lignes, mais il y a au sein de ce gouvernement, au sein de l'exécutif, mais il y a néanmoins quand même une volonté plus ou moins affirmée de rouvrir vite. Alors c'est vrai aussi que le mantra qui reste l'intangible, c'est en effet l'ouverture des écoles. Ça, c'est le pari de ce gouvernement depuis le début. C'est vraiment, oui, l'engagement de Macron. C'est là que réside le pari le plus important. Il est là, c'est dans ce maintien des écoles.
À ceci près qu'en novembre, on avait réussi à maintenir les écoles ouvertes en freinant drastiquement l'épidémie. Donc, c'est un pari, mais limité, j'ai envie de dire. Alors que la réouverture des terrasses, où on sait que quand on est face à face en train de boire un verre, un café, ou de prendre un petit quelque chose à manger, on est sans les masques et c'est là que les contaminations risquent d'être importantes. Donc le pari, il est aussi sur la réouverture à venir, parce que le président a quand même avancé ses pions sur la réouverture éventuelle des terrasses aux alentours de la mi-mai.
Alors c'est clair que c'est un pari politique, ça. On voit bien que les experts sanitaires ont été mis de côté et que la logique, elle est complètement politique.
D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne les entend plus, les experts sanitaires. Pourquoi on continue de les inviter ? On se souvient de la tribune dans le JDD, on se souvient de la tribune dans le Monde.
Ils sont passés au second plan et c'est la logique politique qui prédomine, mais effectivement, parce qu'on se rapproche des élections. Je ne suis pas sûr que...
Vous dites que les élections, ça joue un rôle ?
Ah bah, la perspective de la présidentielle, puisqu'on voit très bien se déterminer déjà quelques candidats qui attaquent, qui font des propositions, même sur Twitter, comme Xavier Bertrand. Enfin, on voit bien qu'on est dans le lancement de cette course. Mais je ne sais pas si le risque principal, c'est l'ouverture des terrasses, parce que de plus en plus d'experts vous disent que finalement, la contamination à l'extérieur n'est pas risquée. Il y a un vrai risque.
Le benchmark, ça va être l'Angleterre. Vous voyez à Londres, et on s'en réjouit pour eux, la densité sur les terrasses.
C'est la meilleure pub pour le Brexit.
La foule collée serrée sur les terrasses, on verra où ils en sont dans un mois, qu'ils ont plus vaccinés que nous.
Oui, non, mais il y a un vrai risque économique en revanche. Et on voit bien que les restaurateurs sont extrêmement prudents là-dessus, parce qu'ils disent que d'abord, il y a ceux qui ne pourront pas ouvrir des terrasses, ceux qui n'ont pas des espaces de terrasses suffisants. Il paraît qu'il y a 100 000 salariés de la restauration qui sont dans le... on ne sait pas où ils sont.
Qui ont changé de métier, de direction.
Et ça pose des problèmes énormes. Et c'est dès maintenant que devrait se préparer justement une ouverture des terrasses. Ça pose beaucoup de problèmes économiques, sociaux, et alors des problèmes à l'école, parce qu'à l'école, ça c'est quelque chose que je connais bien, étant dans ce milieu-là, vous avez incontestablement des mesures qui, me semble-t-il, auraient dû être prises pendant l'espace des vacances, sur notamment les autotests, sur les tests salivaires.
Alors, c'est le cas. Le Premier ministre annonce des autotests, des tests salivaires pour les primaires dans les écoles, et puis des autotests... deux fois par semaine pour les enseignants et notamment pour les élèves de collège et lycée. Alors, on ne va pas tout le temps critiquer, parce qu'on pourrait tout le temps tout critiquer, Bruno Joly. Il y a quand même une perspective, il y a quand même un cap. Le président de la République, bon an, mal an, a tenu ses promesses, mais il y a quand même quelque chose. C'est sur les protocoles. Sur les protocoles de déconfinement, on voit, et on en parlera tout à l'heure dans le débat du Club des idées, ce qu'ont fait les Israéliens, ce qu'ont fait les Australiens, ce qu'ont fait les Néo-Zélandais, ce qu'ont fait les Coréens du Sud, ce qu'ont fait les Taïwanais. Il y a des trucs formidables qui fonctionnent très bien sur le tracking, le tracing, le testage, l'utilisation des smartphones, les nouvelles technologies. En France, on a l'impression que depuis un an, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus.
Non, on n'a pas beaucoup avancé. Alors, je crois, forcément, le gouvernement est en partie responsable. Je pense aussi collectivement, les Français ont aussi leur part de responsabilité. On l'a vu, ça a beaucoup traîné pour télécharger l'appli qui marche d'ailleurs très bien. Je crois aussi que, de toute façon, aujourd'hui, on a un tel niveau de contamination que le traçage, tout ça, on oublie. Alors peut-être qu'il faut se préparer lorsqu'on aura suffisamment baissé. Le nombre de contaminations. Parce qu'aujourd'hui,
je prends un exemple. Le variant brésilien, le variant indien, on sait que c'est potentiellement le nouveau variant anglais. Il est très peu présent aujourd'hui sur le territoire, mais demain, il pourrait être exponentiel. Ça a commencé comme ça avec le variant anglais. On continue de laisser les passagers arriver.
Et on le trace très mal.
On les isole.
J'ai eu le variant brésilien, je l'ai su je ne sais pas combien de temps après que j'avais eu le variant brésilien. Donc, j'ai été super contaminateur, donc je peux vous en parler longuement. Oui, mais on le sait beaucoup trop tard, parce que les labos, ils ont mis du temps à pouvoir le tracer. Donc il y a beaucoup de retard. On a accumulé beaucoup de retard par rapport... et on a sans doute été un peu moins performant, moins audacieux.
Et présomptueux, peut-être.
Et voilà, c'est moins dans notre culture.
Oui, Henri Vernet, c'est vrai qu'un déconfinement, ça se prépare. C'est le troisième, donc là, il ne faut pas se rater quand même.
Non, il ne faut pas se rater, mais disons que là, par rapport à toutes les mesures que vous avez citées, d'abord, certains de ces pays sont très avancés en termes de vaccination. Le cas d'Israël est patent là-dessus. Quant aux autres, ils ont, depuis le début, opté pour la fameuse stratégie du zéro Covid. Je pense notamment, parmi ceux que vous citiez, à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande. Ça, clairement, la France n'a jamais fait ce choix-là.
À Taïwan, par exemple, chaque jour, visiblement, vous recevez un petit texto vous demandant si vous avez des symptômes, si vous vous sentez bien, qu'il faut contacter.
Alors, très bien.
Ça n'existe pas.
Et en effet, ça a été le cas. Alors voilà, c'est ça. Est-ce que vous accepteriez cela ? Il y a ça aussi, il y a le degré d'accès. Il y a la culture, quelque part, politique, citoyenne, d'une société. Est-ce qu'en France, on accepterait des mesures qui ont été mises en œuvre à Taïwan ? Alors, Taïwan, c'est une démocratie, ça. Ce n'est pas ça qui est mis en cause. Mais simplement, c'est une île, exactement, comme l'Australie, comme la Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a des méthodes qui ne sont pas comme ça généralisables partout. Oui. Mais juste pour finir avec ça, donc n'ayant pas opté résolument pour cette stratégie du zéro Covid, qui est en effet illusoire quand on n'est pas une île ou quand on n'a pas une discipline de fer collective, la stratégie qui maintenant est clairement choisie, c'est celle de la vaccination. Et là, vous disiez, il ne faut pas critiquer tout le temps. Bah, le fait est que là, pour le coup, ça avance. Je veux dire que les derniers chiffres montrent quand même. Il faut qu'on garde une dose de nuance tout le temps. Sinon, on ne serait pas. Je partage totalement.
Vous
ne
pouvez pas vous empêcher, Bruno Jeudy.
Non, parce que la vaccination, globalement, on est la moyenne européenne, c'est à peu près tous les pays. C'est quand même dommage.
Vous avez vu ce qu'il dit ce soir ?
L'Union européenne est ratée, quand même, globalement. C'est pas la France. La France, c'est chose. On est à peu près au même niveau que l'Allemagne.
Vous avez vu ce qu'il dit ce soir, Jean Castex ? Il dit on est le pays le plus performant sur la vaccination aujourd'hui, dans le nombre de vaccinations au jour.
Il faudrait éviter les déclarations un peu bravaches comme ça, parce que on est dans le pelon de tête, mais enfin on est 11e mondial. Enfin bon, mais je pense que le calendrier vaccinal sera tenu. À la différence des autres calendriers, qui étaient ceux des masques ou des tests, là...
On le rappelle, 20 millions de personnes, première dose à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin.
On peut dire sans trop s'avancer que vraisemblablement ce sera tenu, et ça c'est plutôt une victoire. Et donc ça, on peut comprendre que ce soit une satisfaction. Mais bon, il y a toutes les problèmes. Et puis il y a des questions qui se posent, parce que vous avez au même moment où là... on va un petit peu sortir des restrictions. En Allemagne, où pour la première fois, Angela Merkel a fait voter une loi qui va imposer le couvre-feu partout. Partout, dans tous les États, ce qui est par rapport à leur tradition fédérale est quand même totalement neuf. C'est-à-dire qu'au moment où nous, on va essayer de sortir du marasme, eux, ils commencent à avoir des mesures plus restrictives.
Oui.
Mais bon, ça fait partie aussi de cette diversité européenne qui existe depuis le début.
Jean Castex sur les écoles, on en parlait tout à l'heure, je voudrais vous le faire écouter. Voilà ce qu'il disait il y a quelques instants.
Dès ce lundi 26 avril, tous les élèves des écoles maternelles élémentaires, ainsi que leurs enseignants, regagneront leur classe dans un cadre sanitaire le plus protecteur possible. Ce cadre prévoit à la fois un protocole très strict et un renforcement massif des capacités de test à tous les niveaux, élémentaires, collèges et lycées, aussi bien pour les élèves que pour tous les personnels. Ce seront, dès la semaine prochaine, plus de tests salivaires pour les écoles élémentaires. Nous en réalisions 250 000 par semaine fin mars. Nous en proposerons 400 000 par semaine à la reprise, avec la perspective d'atteindre 600 000 tests d'ici la mi-mai.
Voilà. En matière d'objectifs, je crois que Jean-Michel Blanquer avait déjà donné des objectifs en janvier ou en décembre dernier qui n'avaient jamais été tenus.
On oublie, donc c'est ça qui est avantageux pour eux, c'est qu'on oublie les
objectifs. On a un peu de mémoire quand même sur les objectifs. Par exemple, il y a les autotests avaient été décriés, vous vous souvenez, on a eu du mal à les mettre en application, on a dit que c'était compliqué, que c'était pas si simple pour
les
supermarchés, les pharmacies, bref. D'ailleurs, ça marche pas si bien parce que les Français se les arrachent pas. Mais ça y est, ils arrivent dans les lycées et les collèges.
Ils arrivent dans les lycées pour le personnel et pour les lycéens, puisque en dessous de 15 ans, il n'y a pas preuve que ça puisse fonctionner. Donc oui, il va falloir en faire beaucoup quand même, parce que la promesse de Jean Castex, c'est qu'il y a eu plusieurs millions de commandes. Moi, hier, à Matignon, on m'a dit « Attention, ne nous précipitons pas, ils ne seront pas tous là tout de suite. » Donc, à mon avis, ça va quand même prendre quelques semaines avant de se déployer. Là encore, je pense que c'est vraiment... On a un problème de coordination. Mmh. C'est vraiment le genre de choses qui pourraient être prises en main par les collectivités. Et ce serait sans doute plus efficace. Les commandes de l'État, alors il faut choisir le meilleur qui fonctionne à 100%. Bon, voilà. Après, attention, ça, ce que raconte aujourd'hui Jean Castex, et c'est très bien détaillé, on en parlait déjà avant le troisième confinement et ça n'a pas été en place ou c'était très très faible. La région Île-de-France avait mis en place des testeurs par exemple, enfin tout était en place et puis ça n'a pas fonctionné de manière, j'allais dire, industrielle parce que c'est 12 millions d'élèves, 1 million de professeurs.
On a encore un peu de mal avec la décentralisation. On marque une courte pause les amis, 18h46 et on se retrouve dans un instant. On parlera aussi de Marine Le Pen aux portes du pouvoir, nous dit la Fondation Jean Jaurès. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.